À quoi tu penses ?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h, sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Un élevage de 140 000 poules, c'est le projet contre lequel se bat un collectif d'habitants de Celles-les-Vescots. Nous reviendrons dessus en détail en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on découvre ensemble une innovation locale. Elle est portée par Victor Figuera et il a créé le tofu du Poitou. Bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Ben merci, c'est un plaisir. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce tofu du Poitou, comment est née l'idée de produire un tofu artisanal?
Ouais, alors c'est une longue histoire. Il se trouve que j'ai eu la chance d'étudier, de faire une partie de mes études à Hong Kong, en Asie, en Chine. Et c'est là-bas que j'ai découvert pour la première fois du vrai bon tofu. Et en fait, l'idée m'est toujours trotté dans un coin de la tête de potentiellement retrouver un peu ce goût, cette texture que j'avais bien aimée en France. Et là, c'est très difficile d'en trouver un supermarché du tofu qui tienne la route. Et du coup, je me suis dit un jour, il va falloir que je me forme pour en produire moi-même. Et donc, je me suis lancé en 2023 dans un voyage un peu fou jusqu'à Taïwan, en fait, sans avion, avec ma copine, pour y apprendre la production traditionnelle de tofu. Et donc, on est rentré en 2024. Et bon an, mal an, j'ai fait mes essais, j'ai acheté des machines taïwanaises aussi, justement, pour produire ce tofu-là. Et en mars 2025, j'ai lancé pour la première fois ma première production, du coup.
Et vous aviez fait quoi comme études? Est-ce que vous étiez destiné à créer du tofu?
Non, pas du tout. Je suis en reconversion professionnelle. J'ai fait des études à Sciences Po Paris et à Hong Kong, du coup. Des études de sciences politiques, urbanisme et un peu de commerce aussi. Mais en fait, très vite, j'ai eu une petite carrière. Hein. Je suis assez jeune, mais une petite carrière dans la transition écologique. Et c'était absolument très chouette. Mais il me manquait une dimension plus manuelle, plus artisanale, qui me titillait un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai voulu à un moment mettre les mains dans le cambouis et avoir cette espèce de biactivité, parce que je continue par ailleurs mes activités de conseil en alimentation durable, en transition écologique, mais l'essentiel de mon activité aujourd'hui, c'est vraiment la production artisanale de tofu.
Alors ceci dit, il y a peut-être quand même un lien entre les deux, parce que vous revendiquez des ingrédients bio, des ingrédients locaux, c'est quand même pas à l'opposé de ce que vous preniez jusqu'à présent.
Oui, c'est un projet politique, hein, pour moi, on va pas se mentir, c'était indispensable, c'était inconcevable que je fasse un produit comme certains le font, hein, qui du tofu avec du soja importé du Japon, enfin ça n'a aucun sens. Moi je voulais des ingrédients intégralement locaux. Mon soja vient de Charente-Maritime, l'année prochaine si tout va bien il viendra de Champigny-en-Rochereau, donc à quelques bornes de Poitiers. Le reste c'est aussi l'ail des ours de la Vienne que je vais cueillir moi-même à Fontaine-le-Comte, le basilic qui viendra de Vendeuvre, enfin voilà, on est sur de l'ultra local.
Parce que c'est vrai que le tofu peut avoir mauvaise presse, on va dire, ce côté un peu plastique, sans goût, et qui en plus vient de loin, c'est casser tous ces clichés.
Ouais, c'était l'objectif. Moi, il y a beaucoup de mes potes qui me disent le tofu c'est dégueulasse, et en vrai, je suis assez d'accord en fait. Quand vous achetez du tofu dans un supermarché, une certaine marque qu'on nommera pas, mais qui est en plus un tofu sous vide, qui est même pas au rayon frais, faut pas s'attendre à avoir du tofu, faut s'attendre à avoir quelque chose d'assez cartonneux, de très mauvais en goût. Moi, j'avais essayé de retrouver une texture fondante, presque crémeuse, qui fait la particularité des tofus taïwanais ou japonais, avec une texture beaucoup plus tendre, justement, et beaucoup moins pressée que les tofus industriels.
Et qu'est-ce que c'est le tofu en réalité? Comment ça se fabrique?
Ça se fabrique étonnamment exactement comme un fromage. C'est-à-dire qu'on a un lait de soja à l'origine et pas un lait de vache. C'est-à-dire que moi, je pars de la graine de soja que je broie pour en extraire le lait de soja. Je le fais cuire, ensuite je le fais cailler et ensuite je le moule et je le presse exactement comme un fromage classique de vache. Et à la différence aussi que c'est pas un fromage fermenté, ça va être comme un fromage frais puisque le tofu n'est pas un aliment fermenté.
Et donc, il y a quand même différentes formes, différentes variétés que vous proposez, du coup, que vous essayez de développer.
C'est ça. Aujourd'hui, j'ai trois produits. J'ai un tofu nature, donc le plus authentique de tous. Un tofu fumé, que je fais fumer avec un bois de châtaignier de bressuire. Et un tofu à l'ail des ours, qui lui va être plutôt pour agrémenter un apéro, des pâtes, que sais-je, un truc beaucoup plus parfumé. Voilà.
Et justement, à qui ça s'adresse? C'est vrai que on nous explique qu'il faut manger moins de viande, que c'est important pour l'environnement, mais c'est pas forcément que pour les végétariens.
Oui, ça c'est un point que j'aime bien aborder parce que on a vraiment cette image. En fait, pour refaire un peu d'histoire, le tofu est arrivé en Occident avec cette idée qu'il fallait une protéine végétale. Et en fait, tant pis pour le goût, tant pis pour la texture, il fallait juste une protéine végétale pour des végétariens. Quand on regarde un peu la consommation en Chine ou au Japon, c'est intéressant de voir que le tofu est très fréquemment consommé avec du poisson ou même du bœuf ou du porc. C'est pas du tout un aliment qui est réservé aux végétariens ou aux véganes. Et je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de ça aussi, quoi.
Et alors, l'autre interrogation que les gens peuvent avoir, c'est qu'on peut produire du soja à côté de chez nous.
Oui, alors il y en a beaucoup qui le font pour l'alimentation animale essentiellement, mais moi j'ai eu la chance de trouver quelques producteurs du coup dans le Poitou qui proposent des variétés de soja compatibles avec l'alimentation humaine, donc qui ont la bonne teneur en protéines, la bonne consistance, etc. Et oui, ça se développe, et potentiellement ça se développe même sans irrigation. Je sais que dans la plaine de Loudun, je connais quelques agriculteurs qui produisent du soja sans irrigation. Ça c'est quand même assez fou.
Et alors justement, le but, c'est d'être le plus circuit court possible. Donc ça, c'est les prochains développements de Tofu du Poitou.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est aussi de diversifier un petit peu ma gamme peut-être. Donc moi, j'aurai un tofu spécifique à chaque saison. Donc là, c'est l'ail des ours. Et l'été, ce sera basilic. En automne, ce sera gingembre citronnelle. En hiver, ce sera la truffe. Donc il y a toute une palette que j'aimerais déployer à terme.
Et parce que en fait, chaque bloc de tofu, on va dire, est un peu unique, comme un peu un fromage artisanal, en fait.
Oui, non seulement il est unique, mais du coup, même au sens littéral, c'est-à-dire que moi, je suis artisan, j'ai pas un système j'ai pas du tout un système industrialisé qui permettrait à chaque bloc d'être absolument identique. Et je trouve que c'est un peu ce qui fait le charme de mon tofu, c'est que chaque bloc est un peu une surprise. Moi, c'est un peu mon Kinder surprise à moi, quoi.
Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce tofu?
Alors, pour l'instant, on peut le trouver sur le marché de Notre-Dame tous les samedis à Poitiers, tous les samedis matin, et à Ligugé, au marché des usines, le vendredi soir, de 17h à 19h, et à terme, normalement très prochainement, dans tous les magasins bio de Grand Poitiers.
Donc, des partenariats qui sont en cours. Justement, en termes de création d'entreprise, quels sont un peu les défis que vous avez dû relever?
Il y en a pas mal, hein. On va pas se mentir.
Il fait les gros yeux.
Oui. Bah, y a pas, à partir du moment où il n'y a aucune formation diplômante, qualifiante ou que sais-je pour faire du tofu, bah, déjà la première, le plus gros challenge pour moi, ça a été de me former pour lancer cette entreprise. Ensuite, il a fallu en effet investir dans des machines qui sont rares, qui sont spécifiques à Taïwan. Il y a une marque en gros à l'international, peut-être deux ou trois maximum, qui font ce type de machines. C'est des machines qui coûtent cher, c'est des machines qu'il faut importer, donc ça met quand même 4-5 mois pour se les faire livrer. Et ensuite, il y a tous les tests à faire et là-dessus, on se sent vachement seul. C'est pour ça que nous, on a créé un réseau de solidarité entre producteurs et productrices de tofu en France. On n'est pas nombreux, on est une vingtaine, mais ça fait du bien de s'entraider, de se serrer les coudes.
Oui, justement, le fait de se rendre compte qu'il y en a d'autres en France, ça permet de développer des nouvelles choses, ça permet d'imaginer des partenariats plus tard.
Oui, des partenariats ou même en fait d'avoir des retours d'expérience, de bonnes pratiques. En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à simplifier beaucoup mon système de production grâce à des petits conseils à droite à gauche. C'était très précieux, ça, pour moi. Ouais.
Et alors, comment vous voyez l'entreprise d'ici 5 ans, on va dire ?
On va rêver. Moi, je la vois en scope. En fait, je la vois, j'aimerais qu'on soit plus nombreux. J'aimerais, parce que c'est un travail qui est très physique, très solitaire. Donc moi, je le produis à Colombier, à côté de Poitiers, sur une zone d'activité qui est très bien par ailleurs. Je remercie toute la mairie de Colombier. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est un peu ingrat d'être toute une journée entière dans un laboratoire sans voir personne. Moi, c'est important pour moi, à terme, qu'on soit à 2, 3, 4, selon les débouchés aussi, et qu'on soit sur une gouvernance horizontale pour qu'on puisse partager les prises de décision. C'est aussi beaucoup moins de responsabilité, beaucoup moins de charge mentale pour moi d'aller vers ça. Donc c'est mon idéal, l'idéal auquel j'aspire. Ouais.
Donc s'il y a des gens qui ont envie de se lancer dans la production de tofu, l'appel est lancé. Et quels sont les premiers retours des clients?
Super positif. Franchement, j'en suis pas le premier surpris parce que je suis content du produit, mais ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a plein de gens qui me disent des choses au marché comme « c'est simple, avant je mangeais pas de tofu parce que j'aimais pas ça et maintenant j'aime ça ». Il y a une autre personne qui m'a dit ça samedi dernier, elle m'a dit « le vrai problème de tofu du Poitou, c'est que quand on en a consommé, on peut plus rien manger d'autre ». Je trouvais ça très touchant, voilà. Donc non, je suis super content des retours.
Eh ben, merci beaucoup Victor Figuera, donc créateur du tofu du Poitou, qu'on peut retrouver donc sur les marchés et bientôt dans les magasins bio de Poitiers. Merci bien.
Merci.
On continue en musique avec Maxo et ce titre Wata Feeling, puisqu'il était au Kamji le mois dernier. Yeah.
out your voice, yeah. Because the rhythm is so nice, you know I'm gonna run it twice.
Roll it twice.
Oh, what a feeling, you know. Oh, what a fudge, yeah. Because the rhythm is so sweet, I'm in love with the big bass line.
Oh, give me the big bass line.
Oh, what a feeling, what a vibe, when me come on stage. Me a waiting for it so long like a lion in a cage. What a lovely day, me got nothing to blame. Well, me ready my heart like a burning flame. Like a burning flame, like a burning flame. Ready my heart like a burning flame, like a burning flame, red in my heart like a
yeah.
Oh, what a feeling, oh, what a vibe, yeah. Because the rhythm is so nice, you know I'm gonna run it twice. Oh, what a feeling, oh, what a fudge, yeah. Because the rhythm is so sweet, I'm in love with the big bass line. Oh yes, me born to be free, I'm born to be wild. What max up on this, come and say, shout it loud. Well, born to be real, I'm born to be kind. There's nothing like a good, good sound. One mess I kill, kill, like a kill, 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 kill them out. Kill, kill, like a kill, kill, kill without sound. Kill, kill, like a kill, 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 kill them out. There's nothing like a good, good sound.
Elle s'appelle la ferme de Vaugeton et elle devrait accueillir un élevage de 140 000 poules pondeuses sur la commune de Celles-les-Vesco. Mais un collectif, le collectif Bien Vivre à Celles-les-Vesco, a décidé que ce ne serait pas chez eux en tout cas. Et Félix Reynaud, le président de ce collectif, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors peut-être vous pourriez nous parler un petit peu de la constitution de ce collectif Bien Vivre à Celles-les-Vesco.
Alors, chronologiquement, on va dire que ça remonte à un an, l'année dernière, quand on a appris par une première réunion publique organisée à la mairie de Celles-les-Vesco par le porteur de projet, du projet de reprise en fait d'une ferme-usine qui existe déjà et qui produit des chèvres, du lait de chèvre et de la viande. Les établissements qui sont actuellement donc, producteurs de caprins veulent transformer leur élevage pour le transmettre en un élevage de poules pondeuses. Donc, c'est comme ça que ça s'est constitué, parce qu'en fait, on subit déjà un certain nombre de nuisances assez importantes du fait de cet élevage intensif de chèvres, qui a été pendant un temps la plus grande chèvrerie d'Europe. Il y avait jusqu'à 7000 chèvres dans les bâtiments, fut un temps, jusqu'à ce qu'il y ait différentes maladies qui éliminent un petit peu le cheptel et qui amènent à réduire un petit peu le cheptel, mais on subit beaucoup de nuisances actuellement liées à cette chèvrerie, et donc en fait le collectif s'est constitué à partir de voisins quand on a une connaissance de cette transformation pour en fait dire stop, quoi, qu'on ne veut plus subir ça et qu'on ne veut plus à l'avenir que ça se reproduise.
Voilà. Et alors, est-ce que vous pourriez nous décrire plus précisément le projet d'élevage ?
Alors le projet en lui-même tel qu'il nous est présenté, hein, je serais pas le meilleur défenseur du projet évidemment, mais c'est de faire 140 000 poules pondeuses, donc un élevage dit au sol, qu'ils appellent un élevage alternatif, mais en fait quand on parle d'élevage alternatif, c'est une alternative à la cage en fait. Il se trouve que...
Mais ça ne veut pas dire plein air.
Non, pas du tout. Et bon, même les poules plein air poseraient d'autres problématiques, mais... Là, c'est un élevage intensif, donc on serait sur 140 000 poules dans 4 hangars, ce qui représente une densité de 8 poules au mètre carré, donc un espace vital pour chaque poule de l'équivalent d'une feuille A4.
Alors, vous parliez de nuisances. Comment c'est situé par rapport aux habitations ?
Alors, la première habitation est à moins de 100 mètres. Et il faut savoir que l'ensemble du village de Vaucheton est situé dans un rayon de 300 mètres autour de l'exploitation.
Et quelles sont justement les nuisances que vous craignez par rapport à cet élevage ou qui vous ont été potentiellement présentées
Ouais. Donc les nuisances qu'on craint, la première nuisance qu'on craint, ce sont les odeurs, évidemment. Les odeurs d'ammoniac, ça c'est des choses qu'on a pu aller constater auprès de riverains qui habitent à côté de Pamprou, donc l'ancienne usine Pampreuve qui est... dont le porteur de projet actuel, Assel Levesco, était propriétaire donc, de Pampreuve. Donc on est allé sur place, on a pu constater que les riverains se plaignaient de nuisances, qu'il y avait des conflits déjà avec le propriétaire pour ces questions d'odeur, des questions de poussière, parce que il faut ramener de la nourriture, ça ramène de la poussière, il faut la stocker. Et puis, une chose auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est aussi les plumes. Hein. Je trouve que les riverains à Pampreuve se sont plaints de nombreuses reprises du fait que des camions, quand il y a des poules qui meurent dans un élevage intensif, il y a de la perte nécessairement. Et quand l'écarissage passe, les camions passent généralement sans bâche et les voisins se retrouvent... On a eu des témoignages qui nous disent ça, que le matin, on avait l'impression qu'il avait neigé dans notre jardin, hein, alors qu'en fait, c'était juste le camion qui était passé chargé de poules, quoi. Donc, et puis les nuisances qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'était parce que les travaux n'ont pas commencé, les poules ne sont pas encore installées, mais il y a eu un début de travaux et les nuisances qu'on a eues, c'était des camions et des transports de matériaux assez importants.
Donc ça, c'est les nuisances pour les riverains ou pour les habitants de tout le village potentiellement. Mais l'autre argument que vous avancez, c'est la question du bien-être animal. Vous le disiez, c'est de l'élevage intensif, donc a priori, ça ne va pas trop dans le sens du bien-être animal.
Oui, c'est sûr. Les porteurs de projets, si vous les interrogez sur la question, ils vous diront le contraire. Hein. Ils vous diront qu'une poule, elle a besoin pour survivre d'un peu de nourriture, un peu d'eau, et puis elle pond son œuf chaque jour, et puis voilà, elle est heureuse, la poule. Hein. Nous, c'est pas notre vision des choses, quoi. Clairement, quand on voit un élevage avec une telle densité, on peut pas se dire qu'une poule est heureuse de vivre dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc après, voilà, c'est toute une réflexion sur la question animale, hein, qui est plus large, qui nous dépasse, hein, et qui dépasse le cadre donc, de Vaucheton. Donc c'est pour ça qu'on en appelle aussi à la population, parce qu'on pense que c'est pas une question qui nous concerne juste nous. Alors nous, bien sûr, qu'on s'est mobilisé en premier parce qu'on a été inquiété par les nuisances, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Et quand vous avez rencontré justement les habitants de Pamprou, est-ce qu'eux s'étaient mobilisés ? Est-ce que ça vous a motivé justement à vous mobiliser encore plus fort à Assel Levesco ?
Alors, à ma connaissance, ils n'ont pas mené d'action collective. Ça en est resté à des actions en justice individuelles, des dépôts de plaintes pour des nuisances disproportionnées, on va dire. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de mouvement collectif des riverains.
Vous évoquez aussi potentiellement des risques sanitaires. Ça, c'est parce que concentration d'animaux ?
Oui, on sait que, par exemple, les cas de grippe aviaire, la grippe aviaire fait des ravages dans les élevages intensifs. Hein. La pénurie d'œufs qu'on a pu constater en début d'année, je ne sais pas où ça en est, mais aux États-Unis, c'est lié au fait qu'aux États-Unis, il y a un élevage qui est extrêmement industriel, industrialisé encore plus que chez nous. Et en fait, quand il y a une bactérie, quand il y a un virus qui s'infiltre dans ces élevages, et ben ça décime littéralement le cheptel, parce que en fait, génétiquement, les poules n'ont pas les capacités à... Enfin, les poules ou d'autres animaux d'ailleurs, hein, comme ce sont... ils ont, alors, je ne suis pas généticien, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de la génétique, mais il se trouve que leur système immunitaire est très affaibli et très vulnérable à ce genre de zoonose, enfin d'épidémie qui pourrait en plus, donc, c'est des cas qu'on voit, commence à voir apparaître, donc des cas de zoonose, de grippe aviaire qui se transmettrait de l'animal à l'homme.
Vous n'êtes pas spécialiste, mais vous allez le devenir avec ce combat, j'ai l'impression. Comment la municipalité réagit face à ce projet ?
Alors, la municipalité, elle a pris position contre. Hein. Ça a été un petit peu long au démarrage, mais je pense que le fait qu'on se soit mis en collectif entre voisins, on a quand même mis un petit peu la pression sur les autorités, on va dire. Et je pense que ça a joué dans le fait qu'ils prennent position, notamment en refusant le permis de construire qui avait été demandé, qui a été attaqué par en justice, mais le tribunal administratif a donné raison.
Donc voilà, pour l'instant, on en est là de la procédure administrative, enfin judiciaire. C'est que le permis de construire était refusé, que ça a été, cette décision a été attaquée. Et pour l'instant, un tribunal administratif a donné raison à la municipalité, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et alors, quelles sont les prochaines étapes ?
Alors là, pour l'instant, on n'a pas eu de connaissance d'appel, mais je pense que c'est trop tard maintenant. Je ne voudrais pas m'avancer, mais de toute façon... La procédure telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est l'enquête publique qui a été ouverte depuis mardi. Donc comme c'est un élevage industriel et qui présente des risques sanitaires, environnementaux et de pollution pour les riverains, pour les tiers, c'est une installation qu'on appelle classée ICPE, donc installation classée protection de l'environnement. Et donc il y a nécessairement une enquête publique qui doit être ouverte pour recueillir donc l'opinion de la population, et ensuite c'est au préfet de délivrer l'autorisation pour commencer les travaux et l'exploitation. Donc pour le moment on en est là, l'enquête publique vient d'ouvrir mardi, elle se prolongera, donc elle dure un mois jusqu'au 11 juillet. Et nous, on avait lancé une pétition donc l'année dernière qui a recueilli 36 000 signatures, et donc on appelle à une manifestation le samedi 28 juin à 14h devant la préfecture pour... remettre au préfet la pétition, les signatures, et puis pour lui dire lui manifester notre opposition au projet.
Et alors l'ouverture de l'enquête publique, c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Quelle est l'action que les habitants peuvent mener dans le cadre de cette enquête publique ?
Alors l'enquête publique, ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est ouvert à tout le monde. On peut habiter Le Havre, Marseille, on peut participer à l'enquête publique. Il n'y a pas de condition de résidence. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est mobiliser un maximum de gens pour manifester leur opposition. Donc comme on n'est pas obligé de se déplacer physiquement en mairie, on peut envoyer un mail, il y a une adresse mail qui est ouverte pour recueillir les doléances ou les opinions de la population sur ce projet-là.
Donc suite à la pétition que vous aviez menée avec des milliers de pétitionnaires, votre objectif, ce serait que les gens se mobilisent aussi lors de cette enquête publique ?
C'est un petit peu tout ce qui nous reste pour faire pression, parce que juridiquement, ça coûte cher, on n'a pas forcément les moyens de mettre en place des actions juridiques qui seraient en plus certainement, si le préfet donne son accord, certainement pour gagner du temps, mais finalement qui seraient juridiquement pas très fondées en fait. Donc notre seul ressort, on va dire, sur lequel on appuie actuellement, c'est la pression populaire, quoi.
Et alors, vous avez aussi le soutien du maire et d'autres politiques en fait, de la Vienne. Ça, c'est important aussi qu'ils se mobilisent.
Oui, ça fait surtout chaud au cœur parce qu'on se sent moins seul, hein, tout de suite. C'est vrai que le maire a pris position. Lisa Bellucco aussi, donc députée de la Vienne, a pris position en notre faveur. Elle était venue dans le village quand on avait fait un premier rassemblement il y a quelques jours. Donc oui, c'est bien. Après, ça reste assez local, assez localisé, et c'est certainement pas suffisant pour faire pression sur le préfet. Mais c'est déjà un soutien qui nous fait chaud au cœur.
Donc deux moyens d'action, répondre à l'enquête publique. Donc là, c'est en ce moment pendant un mois, et puis vous soutenir lors de la manifestation le 28 juin devant la préfecture.
C'est ça, ouais.
Merci beaucoup Félix Reynaud. Donc vous êtes président du collectif Bien Vivre à Celles-les-Vescou et donc vous vous battez contre ce projet d'élevage de 140 000 poules sur la commune. Merci bien.
Ouais, je rajoute juste que toutes les infos que j'ai dit là, on peut les retrouver sur notre site internet. On a un site internet, on est présent sur tous les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, on peut nous trouver facilement, ainsi que l'adresse pour participer à l'enquête publique.
Merci bien. Merci. Demain, dans le Café de la Presse, on fera le point sur les différents chantiers en cours à Poitiers. Tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. Et l'agenda est présenté par Rachel.
Bonjour à tous, voici ma sélection d'événements à faire aujourd'hui. Tout d'abord, la conférence archéologie de la guerre 39-45. Docteur en histoire de l'université de Caen-Normandie, Vincent Carpentier évoquera les origines, les acquis et les récentes évolutions qui ont accompagné l'émergence de cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale, puis proposera un panorama des grandes catégories de vestiges conservés et mis au jour sur les théâtres de ce conflit majeur. Ça commence à 18h aux archives de la Vienne. Puis le concert Les Impros Givrés du Poco, festival local d'art, laissez-vous surprendre et emporter par les improvisations musicales et givrées des musiciens et musiciennes du Poco collectif. Boissons locales et snacks maison disponibles à l'espace bar et ça commence à 19h au local. Pour la soirée maintenant, le Loco Comedy Club stand-up. Toutes les deux semaines, le Loco Comedy Club vous promet une soirée de rire et de détente. Préparez-vous à découvrir une sélection de talents prometteurs de la scène comique française. Ça commence à 20h à la locomotive. Et enfin, au Dietrich, le film Amour Apocalypse de Anne Aymon. Propriétaire d'un chenil, Adam, 45 ans, est un homme profondément bon et généreux. Mais il est aussi éco-anxieux. Via la ligne de service après-vente de sa toute nouvelle lampe luminothérapie, il fait la connaissance de Tina, une jeune femme à la voix douce. Cette rencontre inattendue dérègle tout. La terre tremble, les cœurs explosent, et oui, c'est l'amour. La séance commence à 21h.
Merci beaucoup Rachel, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin. Ce soir sur Pulsar à 18h, c'est le Labo des Savoirs sur la thématique vélo, quelle révolution. À 19h, c'est Poitou Pop et à 20h, Metal Fury. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec Omar Perry. Omar ne s'est pas appuyé sur la notoriété de son père et a préféré tracer son propre chemin. Bon après-midi, à demain.
Once a man, twice a child, free your heart and free your mind. It now makes sense to be living on kind. Remember those days we used to be fine.
Dance.
Let me see you.
Mystic sky. regardez.